Bonjour à tous. Au lendemain de leur coup d'État, les militaires maliens promettent des élections rapides pour rendre le pouvoir à la société civile. Face aux condamnations de la communauté internationale, les putschistes promettent également que tous les accords internationaux seront respectés. Nous ferons le point avec Valérie Krova dans un instant. Un sommet européen extraordinaire vient de débuter sur la situation en Biélorussie. 10 jours après la réélection contestée du président Alexandre Loukachenko, les grèves et les manifestations qui durent dans le pays. Nous entendrons l'appel d'une manifestante biélorusse qui attend des gestes forts de l'Union européenne. Depuis hier, les entrepreneurs français touchés par la crise sanitaire peuvent effectuer leur demande en fonds de solidarité pour le mois de juillet. Mais les critères sont plus serrés qu'auparavant et dénoncés par de nombreux commerçants. Précision avec Adrien Toffolet. Et puis à la fin de ce journal, reportage chez les producteurs de champagne. Les vignerons qui s'apprêtent à vivre des vendanges exceptionnelles, mais la pandémie les oblige à restreindre eux-mêmes leur production. Au lendemain de leur coup d'État, les militaires maliens qui ont pris le pouvoir promettent des élections. Hier, en fin d'après-midi, une mutinerie a éclaté dans la garnison de Kati, mutinerie qui s'est rapidement transformée en coup d'État. Le président Keïta et le Premier ministre ont été arrêtés. L'Assemblée nationale et le gouvernement dissous. Des agissements rapidement condamnés par la communauté internationale. La France en tête, hein, la France qui, on le rappelle, a plus de 5000 militaires déployés au Sahel et en particulier au Mali dans le cadre de l'opération Barkhane. Le Conseil de sécurité de l'ONU doit d'ailleurs se réunir en urgence aujourd'hui à la demande de la France et du Niger. Alors en réponse ce matin, les militaires putschistes ont promis que tous les accords internationaux seront respectés. Ils ont également assuré leur volonté d'organiser rapidement des élections pour une transition politique civile. Écoutez leur porte-parole, le colonel-major Ismaël Ouagé.
Afin d'éviter au pays de sombrer, nous, forces patriotiques regroupées au sein du Comité national pour le salut du peuple, CNSP, avons décidé de prendre nos responsabilités devant le peuple et devant l'histoire, d'assurer la continuité de l'État et des services publics. Cette lourde responsabilité ne s'accomplira pleinement qu'avec l'ensemble des forces vives de la nation. La continuité des services publics sera assurée par ceux qui en ont droit au regard des textes en vigueur. Nous ne tenons pas au pouvoir, mais nous tenons à la stabilité du pays, qui nous permettra d'organiser dans des délais raisonnables consentis des élections générales pour permettre au Mali de se doter d'institutions fortes, capables de gérer au mieux notre quotidien et restaurer la confiance entre les gouvernants et les gouvernés.
Le colonel-major Ismaël Ouagé, porte-parole des militaires putschistes. Valérie Krova, bonjour.
Bonjour.
Quelle est la situation sur place au Mali, une vingtaine d'heures maintenant après le début de ce coup d'État, Valérie?
La nuit a été relativement calme à Bamako, malgré quelques scènes de pillage. Alors qu'il est, Ibrahim Boubacar Keïta serait toujours dans la caserne de Kati, située à une quinzaine de kilomètres de Bamako, où il a été emmené hier. Sa résidence privée, située dans le quartier de Sébéni Koro, a semble-t-il été pillée. Dans leur déclaration hier soir, les mutins ont promis que rien n'arriverait aux personnes qui ont été arrêtées. Il faut savoir que d'autres ministres ont été interpellés, dont celui de la justice et des finances, le ministre de la défense, ainsi que tout l'état-major des armées. Le putsch a été mené par des officiers supérieurs et non par des soldats du rang. Leur porte-parole Ismaël Ouagé, que l'on vient d'entendre, est chef d'état-major adjoint de l'armée de l'air. Parmi le noyau dur des putschistes, il y a également le chef de la 3e division militaire de Kati. Il connaît donc parfaitement le camp militaire d'où sont parties les opérations et aurait joué un rôle clé, tout comme d'autres officiers supérieurs de la gendarmerie et de la police.
Et le Mali qui est traversé par une vague de contestation, hein, depuis plusieurs mois d'ailleurs, des centaines de manifestants anti-gouvernement ont défilé hier soir dans le centre de Bamako pour acclamer les putschistes. Quelles sont les raisons de cette colère, Valérie?
Alors elles sont multiples. La grogne montait depuis des mois au sein de l'armée malienne qui a subi de lourdes pertes dans sa lutte contre les djihadistes. On se souvient notamment de la double attaque qui avait coûté la vie à au moins 50 soldats l'année dernière dans le centre du pays. Le silence des autorités, notamment du président Ibeka, avait à l'époque été perçu comme de l'indifférence. Il y a aussi une crise politique profonde depuis les élections législatives de mars dernier, dont les résultats ont été contestés par l'opposition. Laquelle opposition s'est unie au sein d'une alliance qui mêle des chefs religieux, dont l'imam Diko, des partis politiques qui se sont regroupés au sein du Rassemblement des Forces Patriotiques du Mali et des membres de la société civile qui ont créé le mouvement du 5 juin, date à laquelle les Maliens étaient descendus en masse dans la rue pour réclamer la démission de leur président. D'autres manifestations ont eu lieu depuis, notamment le 10 juillet dernier, où le rassemblement avait dégénéré. 23 personnes avaient été tuées, selon l'opposition. Enfin, il faut ajouter que 40% de la population malienne vivent dans une pauvreté extrême. À cela s'est ajoutée la crise du Covid qui a durement frappé l'économie du pays, déjà éprouvée par la situation sécuritaire. Selon le FMI, la croissance devrait tomber en dessous de 1% cette année.
Les explications de Valérie Crova. Au Nigeria, des combattants présumés de l'État islamique en Afrique de l'Ouest ont envahi une ville du nord-est du pays et pris en otage des centaines de civils. Ces civils revenaient tout juste de retourner dans leur foyer après avoir été déplacés dans un camp à cause des violences en cours dans leur région depuis 2 ans. En Allemagne, la série d'accidents provoqués sur l'autoroute hier est un probable attentat islamiste, selon le parquet de Berlin. Hier soir, sur une autoroute qui traverse la capitale, un homme a provoqué plusieurs accidents avec sa voiture, blessant 6 personnes, dont 3 grièvement. Selon plusieurs médias allemands, l'auteur des faits est un Irakien de 30 ans. Il aurait hurlé « Dieu est grand » en arabe en sortant de son véhicule. Un sommet européen extraordinaire sur la situation en Biélorussie vient de débuter. Les 27 chefs d'État et de gouvernement européens sont en vidéoconférence pour évoquer la réélection du président Loukachenko il y a 10 jours avec officiellement 80% des voix. La chef de file de l'opposition biélorusse Svetlana Tikhanovskaya appelle ce matin les Européens à rejeter ces résultats falsifiés selon elle. Sur place, les manifestations et les grèves se poursuivent contre le président Loukachenko au pouvoir depuis 26 ans et les Biélorusses qui se mobilisent espèrent des décision forte de la part de l'Union européenne. Écoutez cette manifestante, Anna, traductrice de formation.
Moi, personnellement, j'aimerais qu'il y ait des sanctions pour quand même limiter un peu le pouvoir de Loukachenko, que le pouvoir de Loukachenko sera proclamé illégitime. Moi, j'espère toujours qu'on pourra arriver à nos résultats nous-mêmes, tout seuls. On n'a pas trop l'habitude de demander de l'aide de l'extérieur, de demander ailleurs. D'après moi, le seul moyen, le seul instrument pacifique de pouvoir tout changer dans le pays, c'est les grèves. C'est une grève totale, nationale. Mais pour ça, on a besoin de moyens pour financer. Ça sonne bizarre, mais pour financer cette grève, parce que les ouvriers ont peur de faire la grève, comme les directeurs les menacent en leur disant qu'ils seront licenciés et tout. Donc ces gens, ils ont peur.
Des propos recueillis par Antoine Balandrin. Et ce mercredi, les présidents du groupe de Visegrad, qui regroupe la Hongrie, la Pologne, la République tchèque et la Slovaquie, appellent à l'organisation d'une nouvelle élection présidentielle en Biélorussie. Par ailleurs, à l'instant, le Bélarus confirme la mort d'un manifestant tué par balle, selon ses proches. Aux États-Unis, sans grande surprise, Joe Biden a été officiellement investi candidat cette nuit par le Parti démocrate. L'ex-vice-président Barack Obama qui affrontera donc Donald Trump aux élections présidentielles prévues le 3 novembre prochain. Direction la Méditerranée où les départs clandestins de Tunisiens vers l'Italie explosent. Cet été, plus de 4000 Tunisiens ont atteint les côtes italiennes pour le seul mois de juillet. C'est une augmentation de près de 500% par rapport à l'an dernier. Et puis le profil de ceux qui tentent la traversée est également en train de changer. Il ne s'agit plus uniquement de jeunes hommes non diplômés. Les femmes tunisiennes sont de plus en plus nombreuses à tenter leur chance sur la mer. Explication de notre correspondante en Tunisie, Maureen Mercier.
La Tunisie face à sa plus grave crise économique depuis plus de 25 ans. Conséquence ?
C'est catastrophique. De plus en plus de mères de famille tunisiennes accompagnées de leurs enfants prennent les bateaux de la mort. C'est pour dire à quel point le désespoir est grand.
Tarek Beniba, président d'une ONG qui travaille sur la migration, est ulcéré. Jusqu'ici, les femmes ne s'aventuraient qu'exceptionnellement sur la route de la Méditerranée centrale, la route migratoire la plus meurtrière au monde. Elles étaient particulièrement nombreuses en juillet dernier, alors qu'il y a encore quelques années.
La femme, avant, c'est le premier élément dans la famille qui résiste contre le projet migratoire.
Ramdan Benamor est membre du Forum tunisien pour les droits économiques et sociaux, l'une des ONG les plus active en Tunisie.
Ce qui a marqué la vague migratoire, surtout dans le mois de juillet, c'est les images où tu trouves la mère avec ses enfants dans ses bateaux en plexiglas ou bien des petits bateaux en bois.
Le Covid a tout bouleversé, le pays s'enfonce dans la crise au point que de plus en plus de mères ne savent plus comment s'en sortir. Ici, c'est sur leurs épaules surtout que pèse la survie économique de la famille. Face à la crise, elles ne voient plus d'autres options que de tenter, elles aussi, de traverser la Méditerranée.
Une précision de Maureen Mercier, le nombre de migrants qui tentent la traversée de la Manche est également en hausse cet été. Et les drames qui s'en suivent également. Ce mercredi matin, un adolescent soudanais de 16 ans disparu en mer cette nuit a été retrouvé mort sur la plage de Sangatte dans le Pas-de-Calais. Depuis hier, les entrepreneurs français touchés par la crise sanitaire peuvent effectuer leur demande au fonds de solidarité pour le mois de juillet. Mais cette fois-ci, les bénéficiaires seront moins nombreux, car si le dispositif a été prolongé jusqu'en décembre, le gouvernement a en même temps resserré les critères d'attribution. Seuls les entrepreneurs des secteurs les plus touchés par la crise, comme le tourisme, la restauration, la culture ou encore l'événementiel, sont concernés. Et même parmi eux, beaucoup se préparent à voir leur dossier rejeté, car les critères plus stricts ne tiennent pas compte de la réalité de leur métier, selon eux. Adrien Toffolet.
Comme toutes les professions du monde de la culture, avec la crise de la Covid,
mon activité s'est arrêtée du jour au lendemain.
Lara est attachée de presse indépendante. Ses clients sont des festivals de musique et des salles de spectacle en France et à l'étranger. Elle a pu bénéficier jusqu'à présent du fonds de solidarité. Mais aujourd'hui, le dispositif se resserre. C'est une liste d'activités basée sur le code APE des entrepreneurs, l'identifiant administratif, qui précise qui peut en être bénéficiaire.
Ma catégorie de métier n'est pas listée, même si je travaille dans la culture, qui est l'un des secteurs avec le tourisme et l'événementiel que le gouvernement a voulu soutenir sur l'année.
Concrètement, ça signifie par exemple que les festivals peuvent toujours avoir cette aide, mais pas leurs sous-traitants qui s'occupent de la restauration des équipes ou comme ici des relations avec la presse. Et ce n'est pas un cas isolé. De nombreux indépendants et auto-entrepreneurs dans d'autres secteurs que la culture sont concernés. Pour François Hurnel, le président de l'Union des auto-entrepreneurs, la catégorisation administrative ne doit pas arbitrairement décider de leur sort.
L'administratif joue un rôle d'effet couperet, ce qui est très dommage. Nous allons tout faire pour essayer de faire comprendre au gouvernement qu'il faut ouvrir légèrement le dispositif de façon à permettre une appréciation de l'activité réellement exercée pour savoir si on peut rentrer dans les clous du fonds de solidarité.
Alerté sur cette problématique, Bercy invite les entrepreneurs à faire quoi qu'il arrive une demande et en cas de rejet, de le contester en apportant la preuve que son activité dépend bien des secteurs aidés. C'est souvent très difficile à prouver, colère déjà plusieurs syndicats, et c'est se lancer dans des procédures administratives longues et stressantes au moment où le compte en banque est vide.
Adrien Toffolet, une autre conséquence du Covid-19 sur l'économie française. En Champagne, les vendanges s'annoncent précoces et exceptionnelles, mais la pandémie s'apprête à gâcher la joie des vignerons. Alors que les sécateurs sont déjà de sortie dans certaines communes, le rendement commercialisable pour les vendanges en 2020 a été fixé à 8000 kilos par hectare. En Champagne, concrètement, seuls 8000 kilos de raisins pourront être récoltés par hectare de vigne. Un quota négocié à un niveau historiquement bas, car les maisons de Champagne anticipent une baisse des ventes sans précédent pour cette année, autour de 100 millions de bouteilles vendues en moins en raison de la pandémie. On peut donc parler clairement de compromis en forme de crève-cœur, Sophie Constanzer.
C'est un compromis qui ne satisfait vraiment personne et le premier à l'avouer, c'est Jean-Marie Barrière, le président de l'Union des maisons de Champagne.
C'est un crève-cœur par rapport à une activité agricole, mais j'ai envie de vous dire, je ne peux vendre que ce que le marché va accepter. Et si le marché baisse, si je produis beaucoup, la chute est terrible. C'est une chute des volumes, chute des prix et on met 20 ans pour s'en remettre.
Et les premières victimes, ce sont les vignerons qui produisent leurs bouteilles. Ces vignerons indépendants dont le représentant Yves Couvreur estime depuis le début qu'en dessous de 9000 kilos par hectare, ce n'est pas viable.
J'ai l'impression que le scénario de 76 est en train de se mettre en place. Une super récolte. On rentre à minima une appellation avec des charges qui n'ont surtout pas baissé, qui ont même augmenté. Donc on va arriver dans les années prochaines avec des cuvées qui ont coûté cher à produire et on va peut-être regretter d'avoir laissé une belle maturité, une belle récolte qui se présente. Quoi.
Il y a des mécontents, oui, mais c'est le collectif qui compte pour le président du syndicat général des vignerons. Maxime Toubar estime qu'il faut regarder la crise en face.
Partout dans le monde, tous nos marchés traditionnels sont très impactés. Aux États-Unis, ça ne repart pas et de voir également que pratiquement moitié des restaurants à Paris ne sont pas ouverts. Donc tout ça, c'est autant de signaux qui ne sont pas très positifs.
La baisse des ventes en Champagne est estimée entre moins 25 et moins 30%.
Reportage de Sophie Constanzer. Et côté sanitaire, la préfecture du Rhône rend le masque obligatoire dans certains quartiers de Lyon à partir de samedi et ce jusqu'au 31 octobre. L'ensemble des marchés de la ville sont concernés, ainsi que certaines zones commerçantes et les berges de Saône et du Rhône de 18h à 2h du matin. À Toulouse, c'est plus simple. Masque obligatoire dans toute la ville de 23h à 7h à partir de vendredi. Et les préfets qui planchent désormais sur les rassemblements et les scènes de liesse liées au sport, les préfectures de Paris et des Bouches-du-Rhône réfléchissent à l'instauration de plusieurs fan zones à Paris et Marseille, dimanche prochain pour la finale de la Ligue des Champions de football. Une finale à laquelle participera le Paris Saint-Germain et peut-être l'Olympique Lyonnais. Ces zones délimitées permettraient de contrôler les flux et limiter les manquements aux gestes barrières dans ces deux villes où la circulation du virus est particulièrement active. Hier, suite à la victoire du PSG en demi-finale, plusieurs milliers de personnes se sont rassemblées porte de Saint-Cloud et sur les Champs-Élysées pour fêter la qualification. 36 personnes ont été interpellées. Un court mot de la météo. La France est coupée en deux cet après-midi. Des averses au nord, grand soleil sur la moitié sud. Les températures iront de 21 à Brest jusqu'à 33 à Toulouse. C'est la fin de ce journal. Il a été préparé par Nathalie Lopez à la technique, Jérémy Kaufmann.